Europe 1 Culture Média.
9h-11h, Pascal Clark.
Bonjour à tous, nous y sommes presque. Quelle heure est-il? Ouais, 9h passées. Encore une quinzaine d'heures à vivre, marcher, travailler, buller, pester contre ce masque qui remonte tout le temps, tousser, parler, comment j'entends rien avec ton masque. Encore une quinzaine d'heures de 2020 à passer, cette année qu'on aimerait bien insulter. J'ai des mots qui me viennent en tête, qui commencent par S, qui commencent par P. Je suis sûre que vous les avez vus à Times Square, le quartier des spectacles et des publicités à New York. Enfin, plus de spectacles, mais toujours des pubs. Vu un homme qui, muni d'une batte de baseball, passe ses nerfs et détruit une effigie en carton de 2020. Regardez.
Bon débarras.
Au revoir 2020.
À Times Square, la célèbre place new-yorkaise, comme chaque année, c'est la tradition. Dire adieu aux mauvais souvenirs.
Ah, ça fait du bien. Bientôt, bye bye 2020. Non, on ne te regrettera pas l'ombre d'un instant. Et toi, la suivante, t'as intérêt à faire attention. Au menu de Culture Média ce matin, vu à la télé, sélection d'images offrant une représentation du monde, zapping avec bon montage. Le Vu 2020 passe demain soir sur France 3, 4 heures de programme. Nous serons tout à l'heure avec son créateur et réalisateur Patrick Menet. Comment font les magazines de cinéma sans cinéma? Question posée dans une dizaine de minutes à Thierry Chaise pour Première et Thierry Lounaz pour Sofilm. Et puis après 10 heures, notre invité, votre invité, s'appelle Thomas VDB, humoriste avec spectacle, mais sans salle pour le jouer. La série des baroques, indice pour l'épisode du jour, le tambour d'une machine à laver, vous l'avez. Culture Média jusqu'à 11h, vivre la fin de 2020 avec vous, joie. Et bonjour Thomas Hill.
Bonjour Pascal Clark.
Au sommaire de votre journal des médias.
Alors je vais vous parler du nouveau projet d'Ardisson, du festival de Montreux et puis surtout de ce qui nous attend pour cette soirée endiablée du 31.
Endiablée, comme vous y allez, avec votre champomie. Mais d'abord les sacro-saintes audiences qui a eu les faveurs du public hier soir.
Bah, je vous en parlais hier, c'était le clap de fin de la 9e saison du meilleur pâtissier sur M6 avec, je sais que vous l'avez suivi, la victoire d'Elodie avec son gâteau.
Elodie a gagné avec son gâteau. Alice au pays des merveilles.
Ouais, vous l'adoriez, hein. C'est votre préféré?
Oui.
Ouais, bah, voilà.
Non, ça va, je suis contente.
Bon, vous êtes contente, alors ça va. Elle a fédéré 3,8 millions de téléspectateurs, 17% de fans de desserts à la fois craquants et gourmands, et 33% des fans de moins de 50 ans. Très bon score donc pour M6. TF1 suit avec Les Visiteurs, La Révolution, 4e déclinaison des aventures de Godefroy et Jacouille, et pas la meilleure, hein, on va pas se mentir. 3,7 millions de téléspectateurs tout de même, 16% du public. Et enfin, la 3e place est pour France 2, avec son 2e numéro, N'oubliez pas les enfants, avec Nagui qui a rassemblé 2,3 millions de chanteurs, exactement comme la semaine dernière.
Culture Média.
On en sait un peu plus, Thomas, sur le nouveau projet de Thierry Ardisson.
Oui, après avoir tenté de vendre son projet à Netflix et Amazon, l'homme en noir a finalement convaincu France Télévisions de lui commander un pilote. Stéphane Cidbon-Gomez, le nouveau patron des programmes, avait parlé d'une émission hors norme, assez ambitieuse, une vraie innovation technologique, sans en dire plus. Eh bien, le magazine Capital de janvier explique que le concept reposerait en fait sur des interviews posthumes de personnalités ramenées à la vie grâce aux technologies numérique. Ardisson pourrait donc se retrouver par exemple en face de Johnny, Gainsbourg ou De Gaulle. Le titre de cette émission pourrait être « Hôtel du temps », un nom que Thierry Ardisson a déposé fin 2019. Mais bon, il en dépose tellement de titres qu'on n'est jamais sûr que ce soit le bon.
Ouais, c'est vrai, si ça se trouve, ça s'appellera RIP, tout simplement. Paul Le Guen adresse une tribune à Vincent Bolloré dans le journal Le Monde.
Oui, l'actuel entraîneur du Havre demande directement à Vincent Bolloré de revenir sur la décision de congédier Stéphane Guy, qu'il qualifie de meilleur commentateur de foot. Pour rappel, il a été licencié la semaine dernière suite à son message de soutien à l'antenne envers Sébastien Thoen, renvoyé lui-même pour son sketch visant CNews. Paul Le Guen tente de jouer sur les origines bretonnes qu'il partage avec Vincent Bolloré. Un breton, j'en suis certain, ne doit pas se raidir face à de si anodines critiques. Non, monsieur Bolloré, un breton ne doit pas faire cela, dit-il. Reste que les bretons ont aussi la réputation d'avoir la tête dure.
Et pas que.
Et pas que.
Le festival de Montreux sur France Télé, c'est terminé.
Oui, le festival de Montreux, c'est l'un des grands événements de l'humour francophone et il a été annulé en décembre dernier à cause des restrictions sanitaires. L'organisateur du festival espérait le reporter fin mai. Ils avaient le soutien de la télévision publique suisse et de la chaîne Comédie, mais France Télévisions n'a pas suivi, refusant de reporter son financement pour cette date. Du coup, l'édition de printemps ne pourra pas avoir lieu, ce qui agace fortement Yann Renoir, directeur général du festival, joint par Louise Bernard.
Là où nous avions besoin d'aide, eh bien eux ont décidé de nous abandonner en rase campagne. Qu'ils veuillent mettre un terme à une relation commerciale qui date depuis une dizaine d'années, ça fait mal, mais quelque part, ça peut s'entendre à condition d'y mettre les formes. Ce qui est plus compliqué, c'est de profiter d'une annulation objectivement pas de notre fait, hein, qu'on trouve des solutions pour reporter. Eh bien non, ils utilisent cette raison pour sortir du deal sans honorer la dernière année, évidemment sans rien nous verser et nous laissant un peu à notre propre sort. Nous, on les contactait en étant certains que, comme les autres, ils allaient répondre présents. Et on avait un genou à terre, ils nous ont un peu poussé du pied.
Voilà, et selon Yann Renoir, France Télévisions a motivé sa décision par l'arrêt probable de France 4 qui diffusait ce spectacle et le besoin de dégager des marges de manœuvre pour lancer de nouveaux programmes. Le festival cherche donc maintenant un autre diffuseur.
Également dans votre journal des médias, Thomas, les très mauvais chiffres de la fréquentation des salles de cinéma en 2020, forcément.
Ouais, la baisse est évidemment colossale, moins 69,4% par rapport à l'année dernière. Selon les chiffres du CNC, les cinémas ont enregistré 65 millions d'entrées contre plus de 210 millions l'année d'avant. La faute est évidemment à la pandémie qui a contraint la fermeture des salles pendant 162 jours cette année et qui a obligé certaines grosses productions à repousser leurs sorties, comme par exemple OSS 117, Kaamelott ou le nouveau James Bond au titre prémonitoire « Mourir peut attendre ». Maigre consolation pour le cinéma français, les films Made in France ont réalisé davantage d'entrées que les productions américaines, ce qui ne s'était pas produit depuis 14 ans.
Enfin, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sais pas quoi faire.
Bah oui, ce soir, c'est pas la fête, c'est pas paillettes, mais plutôt liquette. Chacun chez soi.
Attendez deux secondes. Liquette?
Bah oui, vous portez bien une liquette.
Moi, je vous imagine d'un seul coup en liquette, là, ça me fait tout drôle.
L'image est belle, hein.
Ouais.
Alors, plus que jamais, la télévision devrait être le remède anti-déprime ce soir pour de nombreux Français. Face au traditionnel bêtisier de TF1 dont on a parlé ici, France 2 nous propose une soirée à Versailles. Un grand show de plus de 40 artistes animé par Stéphane Bern et mis en scène par Kamel Wally. Depuis deux ans, France 2 cherche la solution pour essayer de remplacer Patrick Sébastien qui a animé pendant des années cette soirée du réveillon. L'an dernier, le trio Daphné Burki, Sophie Davant et Faustine Bollaert avait été légèrement devancé en audience par le bêtisier de TF1. Alors l'objectif est-il de reprendre le leadership ce soir? Louise Bernard a posé la question à Alexandra Redamiel, directrice des divertissements de France Télé.
Ce qui est important dans une année aussi particulière que celle-là, c'est plutôt de se dire, quoi qu'il arrive, que l'on va faire la fête tous ensemble. C'est une réponse qui pour moi est importante parce que vous savez que ça a été compliqué pour tous, bien entendu, parce qu'on est dans un moment de crise qui est tel qu'il y a des moments où on se pose la question de savoir si on va faire des émissions et de pouvoir se dire que le 31, les gens, vous le savez, qu'on est en couvre-feu, qu'on ne va pas pouvoir sortir et donc de pouvoir faire la fête avec eux, je crois que pour nous, ça sera la plus belle des récompenses avant toute chose. Alors bien entendu, si nos téléspectateurs sont en rendez-vous, c'est encore mieux. Mais je crois surtout que de faire plaisir, de donner de la joie, divertir, ça sera notre plus belle des récompenses.
Autre option pour cette soirée du réveillon, pardon.
Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la liquette?
Non, rien, toujours la liquette.
J'avais pas d'autres rimes en hête, en fait.
Ah, c'est ça
le problème, ouais.
Bon, j'en aurais trouvé des rimes en hête. Alors, autre option pour cette soirée du réveillon, les chaînes infos qui, elles aussi, veulent participer à la fête en liquette.
Oui, et surtout BFM TV qui nous promet une soirée légère avec le concert de Jean-Michel Jarre, des danseuses du Crazy Horse et puis des directs un petit peu partout en France, comme dans une maternité pour filmer les premiers bébés de l'année. Ça fonctionne toujours ça. Le tout orchestré par la journaliste Aurélie Casse, à qui nous avons demandé si après une année aussi dense en actu, on avait vraiment envie de finir 2020 devant une chaîne info. Écoutez sa réponse.
Ce ne sera pas une rétrospective de l'année 2020. L'idée, c'est vraiment de passer le réveillon ensemble avec les Français, grâce à nos reporters qui seront présents dans les différentes familles. La particularité de BFM TV, c'est que cette soirée sera 100% en direct. Contrairement aux autres chaînes qui normalement enregistrent bien à l'avance ces soirées, les artistes chanteront en direct. Le concert virtuel de Jean-Michel Jarre sera en direct. L'idée de cette soirée, c'est quand même d'être une parenthèse, de terminer cette année qu'on a vraiment hâte de terminer de la meilleure façon, avec aussi de la fête.
Voilà. Et si jamais vous voulez vraiment finir l'année 2020 en fanfare, France 3 vous propose également ce soir Meurtre à Colmar, suivi de Meurtre dans les Landes. Voilà, une bien belle Saint-Sylvestre en perspective. Vivement l'année prochaine.
Oui, et puis après votre nuit blanche en liquette, vous serez quand même là demain matin, Thomas Hill.
Prêt, dispo, bien sûr.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah, bien sûr. Je mets en liquette?
Ah, ça se tente.
C'est tentant.
À demain, Thomas. À suivre, sortir des journaux de cinéma sans cinéma. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Éternelle musique du film Borsalino, hommage à Claude Bolling, disparu hier à l'âge de 90 ans. Le compositeur était surnommé par Boris Vian Bollington. Bonjour Thierry Chaise.
Bonjour Pascal Clark.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Studio. 2020 aura été, on va en dire un mot, meurtrière, hein, dans le monde du cinéma, à tous les niveaux d'ailleurs. Vous pensez à qui, vous? Moi j'ai noté Piccoli et Brasseur, vous avez les mêmes?
Oh, c'est évidemment les mêmes, voilà, et ça... Ces deux pertes vraiment énormes. Alors beaucoup... les films restent.
Oui, les films restent. Et parfois les comédiens aussi, évidemment.
Exactement.
Bonjour aussi au directeur de la rédaction de Sofilm, Thierry Lounas. Bonjour donc.
Bonjour.
Dure année en général, n'est-ce pas?
Oui. Pour tout le monde, pour le cinéma.
Oui, pour tout le monde, mais parce que là, on va parler cinéma. Puisqu'un film n'a pas été projeté dans une salle de cinéma en France depuis pile 2 mois. 150 millions de spectateurs perdus et aucun horizon déclaré. Alors cette question que nous posons ce matin dans Culture Média, sans cinéma, comment font les journaux consacrés au cinéma? Thierry Chaise, pour première, racontez-nous ce moment de sidération, la première conférence de rédaction à première après l'annonce de la fermeture des salles.
C'était la première conférence en Zoom, comme un peu tout le monde déjà. La première, c'est vraiment en effet l'effet de sidération et de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à parler de cinéma? Alors évidemment, on parlait des plateformes, sauf que le temps des plateformes n'est pas le temps d'un mensuel. C'est-à-dire que les infos qu'on a en amont sont très rares. Et c'est pour ça que nous, on avait choisi de faire un premier numéro sur pourquoi nous reviendrons au cinéma. Et on avait interrogé des gens du monde entier en disant, voilà, lorsque ça va réouvrir, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on doit s'adapter, évidemment.
Bah ça va un mois, quoi. Puis après.
Ça va un mois. Après, alors, on apprend à travailler avec les plateformes, on leur demande des infos en avance.
On va parler des plateformes, voilà. Évidemment. Ce sera même le grand thème, malheureusement, de ce débat. Mais on est condamné à ça, il n'y a pas d'autre chose à aller voir.
En fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'on ne savait pas, dès le deuxième numéro, et là, tous les numéros derniers, les films étaient censés ressortir. Donc nous, on a fait des numéros avec des films où les distributeurs nous disaient ça sort, où on avait l'assurance quasiment que ça sortait quand on interrogeait nos interlocuteurs. On disait, vous êtes sûr? Il dit, oui, on est sûr, Rosine Bachelot nous appuie. Donc on a fait des numéros hybrides, je dirais, mais encore beaucoup consacrés au cinéma. Mm-hmm. Et les questions vont surtout se poser si, dans 1 mois ou 2 mois, ça ne se réouvre pas.
Alors du coup, le dernier, première en date, avec Jean Dujardin, alias OSS 117, ouais, à la une, est consacré aux 117 films de 2021. Vous êtes sûr?
Ah ben, il y a une offre absolument incroyable.
Non mais l'offre elle est là, mais si on peut pas la voir.
Ah mais ça me paraît un peu, enfin, ça me paraît fou que ça ne réouvre pas du tout. Maintenant, là l'objectif c'est pour février. Donc tous ces films là, d'ailleurs on ne les a pas datés et les gens ne les datent plus. Mais il y a quand même le Festival de Cannes. Il y a 3 dates possibles. On garde espoir. Ouais. Sinon il faut arrêter.
Il se vend bien ce numéro là, la vérité.
Alors pour l'instant on ne sait pas. Non, ce qui est sûr c'est que... Non, parce que nous, on a les chiffres à la... Ce qui est certain, ben c'est simple. Dès que les salles sont fermées, les numéros se vendent bien. Mais dès que les salles ont été rouvertes, on a fait notre record depuis 10 ans.
Ah bah quand même, voilà. Tant mieux. Thierry Lounas, pour ce film, alors pour vous, c'est un peu différent parce que votre magazine ne colle pas forcément aux sorties cinéma en salle, c'est ça que vous allez me dire?
Oui, on est un peu le mauvais exemple. Parce qu'effectivement, nous, on s'est construit depuis le début dans une espèce de fuite de l'actualité pour être complémentaire aussi des autres vues de cinéma très riches qui existent en France. Et c'est vrai que ce film ne colle pas ni à la promo, ni à l'actu des films, et ne colle même pas qu'au film même, puisqu'on parle aussi des gens qui les font, on parle aussi des histoires autour du cinéma, et puis on parle pas que de cinéma, on parle de la société à travers le cinéma. Donc effectivement, d'un point de vue éditorial, on n'a pas été particulièrement touché par la fermeture des salles et l'absence des sorties du mercredi. Mais malgré tout, si notre magazine existe, c'est aussi parce qu'il y a des sorties en salle, parce que la cinéphilie est vivace et qu'à un moment, on dépend un peu de ça aussi. Mais c'est vrai que l'actualité pour nous des films en salle n'est pas notre fond de commerce, quoi, j'ai envie de dire.
Donc ça n'a rien changé pour vous, on peut dire ça, ou quand même un petit peu?
Ça a changé pour nous le Covid lui-même, parce que c'était l'occasion de faire une nouvelle formule et de se dire aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire une revue de cinéma en papier. Ce film est né aussi du passage au numérique, avec une critique qui s'est fait aussi sur Internet. Et c'est pour ça aussi que ce film a toujours donné de grands espaces à ses entretiens, à ses grandes enquêtes. Et cette nouvelle formule, c'est encore célébrer ça à travers un numéro double aujourd'hui, une pagination non augmentée, de se laisser encore plus de temps pour déconfiner le cinéma à travers des grands voyages, des grands entretiens, parler avec Clooney dans ce premier numéro, d'Obama, de basket, de politique, de son père, de sa mère qui était pauvre et qui a grandi avec cette vie de 1954. C'est aussi ça pour nous, le cinéma, c'est toutes ces histoires qui tournent autour.
Effectivement, George Clooney fait la couverture du SoFilm numéro double de novembre-décembre 2020. Je rappelle qu'il est comédien et aussi réalisateur de Minuit dans l'univers et que le film est sur Netflix, heureusement. On va parler des plateformes, je suis sûre que vous brûlez de le faire. Les ventes pour de vrai de ce numéro double de SoFilm, Thierry Lunas?
Moi aussi, je ne les ai pas encore. Il faut dire, il y a toujours un temps de latence avant d'avoir les chiffres. Donc, je ne peux pas vous les donner aujourd'hui de ce numéro de nouvelle formule. J'espère qu'ils seront bons. Mais Clooney, les gens l'aiment bien.
Oui, Clooney, les gens l'aiment bien. On va parler des plateformes dans un instant. Et de cette question qui est posée quand même, oui ou non, les salles de cinéma sont-elles condamnées? Je suis désolée, même en le disant, ça fait mal au cœur. On va écouter aussi Thierry Frémaux. Ne quittez pas, restez avec nous. Nous sommes en compagnie de Thierry Lunas pour ce film et de Thierry Chaise pour Studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Magazine de cinéma sans cinéma dans les salles. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Lunas pour ce film et de Thierry Chaise pour Première. Et pas pour Studio, comme je l'ai dit il y a un instant.
Mais c'était avant. C'était le monde d'avant.
C'est passé, vous l'avez été. Mais
exactement.
C'est parce que vous êtes en studio. Voyez à quoi ça tient. Bon, désolé. Cette question, donc, oui ou non, les salles de cinéma sont-elles condamnées? Non, évidemment, répond le directeur du Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu. Thierry Frémaux, c'était avant-hier matin sur Europe 1. Écoutez.
Le cinéma, plus ça va, et plus le cinéma en salle deviendra quelque chose de singulier. C'est-à-dire, ça n'est pas la même chose. Prenons, par exemple, sur Netflix, le très beau film de David Fincher qui s'appelle « Manque », sur l'histoire de l'écriture du scénario de Citizen Kane. Eh bien, ce film n'est pas le même si on le voit sur un écran de télévision à la maison ou si on le voit en salle, sur un grand écran. C'était la même chose pour « The Irishman ».
Le film
Fincher
de Scorsese.
Ouais. Oui, ils font le même travail. Ils sont metteurs en scène, ils font leur métier de cinéaste. Mais l'œuvre elle-même n'est pas la même. Quand vous allez au cinéma, vous prenez votre voiture, votre métro, vous y allez en vélo. Devant, il y a un type trop grand, alors vous changez de place. Vous vous en souvenez, on ne va pas... Mais si, je vais citer Godard, la télévision crée de l'oubli, le cinéma crée de la mémoire.
Godard qui disait autre chose d'ailleurs, on lève la tête quand on regarde le cinéma, ouais. Et quand on regarde, quand t'es dans une salle, et on la baisse quand on regarde la télé. Thierry Chaise pour Première, évidemment que Thierry Frémaux ne va pas condamner les salles de cinéma, sauf qu'il n'y a pas de salle alors. Que fait-on? Vous êtes d'accord avec lui?
Moi je suis plutôt d'accord avec lui parce que la situation française est particulière, notamment par rapport aux États-Unis. En France, on a la chance d'avoir le Centre National du Cinéma qui, pour l'instant, continue à soutenir ces salles. On a la chance d'avoir des municipalités qui soutiennent aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de faillite et de disparition. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a eu le déconfinement, on a vu que les gens sont revenus en salle. Ils reviennent en salle quand? On ne va pas au cinéma quand on va au restaurant, on va au cinéma voir des films. Et quand il y a eu une offre, comme Adieu les cons, par exemple, parler dont 30 jours max dans un autre domaine, les gens sont prêts à revenir. Donc moi, je pense qu'il y a toujours, et que le cinéma, on a toujours dit que les salles allaient mourir. Quand la télé est arrivée, quand la vidéo est arrivée, quand le piratage est arrivé, les salles ont toujours survécu et avaient battu un record en 2019. Il n'y a aucune raison que ce rythme-là ne reprennent pas dès qu'elles rouvrent.
Thierry Lunas, ce film, est-ce que vous partagez l'optimisme de Thierry Chaise?
Oui, en partie, parce qu'on a bien vu quand les salles ont rouvert qu'il y a eu une influence record et un appétit énorme Après, ça a été reconfiné, mais c'était assez presque étonnant même de voir cet appétit des Français pour la salle. Donc oui, je suis relativement optimiste. Sauf que après, maintenant, en général, je pense qu'effectivement, la cinéphilie, elle naît en salle, mais elle n'appartient pas qu'aux salles non plus. On a aussi les séries font partie de la cinéphilie, les films qu'on n'a pas vus, les films qu'on a vus sur DVD, les films qu'on voit sur plateforme. Je pense pas que les plateformes aujourd'hui sont l'équivalent de la télévision. C'est plus l'équivalent de la VD, du DVD ou de la cassette VHS d'hier. Et donc, elles ont leur part aussi dans la cinéphilie en France.
Oui, on a peut-être tort d'opposer les deux, en fait. Il y a peut-être de la place pour tout le monde, c'est ça que vous dites ?
Bah oui, il y a toujours eu de la place. Puis moi, je suis un provincial, et quand on est en province, dans une petite ville, bah le cinéma, on l'a aussi découvert ici et là, et peut sans doute que, comme dit Thierry Frémaux, on peut pas remplacer l'expérience collective de la salle de cinéma. Mais on aurait quand même été très content de découvrir que de nombreux chefs-d'œuvre, voilà, sur une vieille cassette VHS à mon époque. Et donc, effectivement, faut pas fétichiser, mais en même temps, aujourd'hui, je pense que c'est le moment aussi d'une nouvelle alliance, peut-être, entre les salles de cinéma et les plateformes. Nous-mêmes, à Sofim, on avait beaucoup soutenu le Festival de Cannes qu'on avait passé au Ogja en compétition, un film Netflix. Et qui nous semblait qu'aujourd'hui, c'est les films qui comptent et qui naissent tous libres et égaux, et quel que soit leur support ou les modes de production.
Regardez cette liste quand même, enfin écoutez-la plutôt. Jean-Pierre Jeunet qui tourne pour Netflix, hein, Big Bug. Danny Boone aussi, 8 rues de l'humanité, comédie sur le confinement. On cite aussi Guillaume Pierret, Balle perdue, Rommel Boulanger connecté, Leïla, 6 banlieusards, avec souvent des succès fracassants, des millions de vues, ce qui n'aurait jamais été atteint, transformé en spectateur dans les salles. Est-ce que Thierry Chaise, à un moment donné, la compétition n'est pas du tout à armes égales? Est-ce que les plateformes ne sont pas en train de tout écraser, y compris dans le financement des films?
Alors, justement, le financement, il y a deux différences. Et déjà, la France n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, on voit que d'abord, tout un pan du cinéma indépendant américain, et maintenant les plus grands auteurs, disent « Nous, notre film ne peut pas être financé s'il n'y avait pas Netflix ou Amazon ». C'est le cas de Scorsese, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cas de David Fincher. En France, une fois encore, le financement, depuis 1945 et le plan Marshall, fait que chaque ticket d'entrée de n'importe quel film finance le cinéma français. Là, il y a moins d'entrées, donc forcément, ce modèle est mis en cause. Rosine Bachelot a annoncé que les plateformes allaient aussi devoir, et a priori donner leur accord, pour financer aussi ce cinéma-là.
Oui, il faut voir si ça se produit vraiment.
En fait, c'est ce que, depuis des années, on essaye de faire ça.
Ouais.
Donc, pour l'instant, en fait, c'est ça. Les salles, quand même, les salles permettent la diversité française. Il ne faut pas oublier que chaque festival de Cannes, on s'enorgueillit au Centre national du cinéma d'avoir aidé à produire des films entiers dans le monde. Les cinémas, beaucoup de cinéma asiatique est financé grâce au CNC. Donc, c'est cet équilibre-là, en fait, qui est aujourd'hui en jeu.
Et certains réalisateurs résistent. Thierry Lounas, quand vous voyez Pedro Almodovar refuser absolument de donner son prochain film à une plateforme, et il attendra que les salles rouvrent. Vous dites bravo quand même, vous dites chapeau.
J'ai envie de dire que c'est sa position. Netflix a sauvé quelques films aussi qui ne pouvaient pas sortir en salle. Y en a qui vont attendre. Nous-mêmes, on a sorti un film de nos résidences, ce film qui s'appelle La Nuée de Juste Philippot, qui ne cesse d'être reporté, qui est un beau film. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je pose pas les deux, il y a une complémentarité nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, les salles doivent en profiter pour faire un pas en avant en réformant un peu la chronologie des médias, et que Netflix a tout intérêt aujourd'hui, en tout cas doit participer effectivement à l'écosystème français, qui fait qu'aujourd'hui, cet écosystème peut soutenir les salles de cinéma. Et si on peut continuer à se dire qu'il y aura encore des salles de cinéma, c'est bien parce qu'on a un système français, là je parle d'un point de vue économique, je ne parle pas du point de vue des films, mais d'un point de vue économique, qui fait qu'à un moment, Netflix doit rentrer dedans. Je pense que Netflix a besoin de cette cinéphilie aussi qui est vue en salle.
Merci à vous Thierry Lounas pour ce film. Une dernière curiosité avec vous Thierry Chaise, première puisque vous êtes aussi la voix off des Césars, le 12 mars prochain la cérémonie. On va récompenser des films fantômes ou comment ça?
Il y a eu quand même beaucoup de films sortis.
Oui, enfin bon.
C'est plus compliqué pour les Oscars que pour les Césars, en fait, parce qu'il y a quand même une offre. Alors, il y a le film de Mai Wen, il y a le film d'Emmanuel Mouret, il y a plein de choses. Et surtout, il y a l'excitation. Marina Foïs à la présentation. Au texte, Blanche Gardin et Laurent Lafitte. à la direction musicale. Non, mais
ne me faites pas le générique là.
Ah, mais c'est un générique génial.
Ah, oui, non, c'est vrai. Non. Enfin bon. Bah, merci à vous, merci aux deux Thierry spécialisés en cinéma. On sent que vous avez des ressources pour vos magazines et ça, c'est bien. Bonne toile virtuelle et numérique à tous. À suivre encore des images. Images télé, le créateur de Zapping qui s'appelle Vu Maintenant, Patrick Menet, est avec nous. Avec vous, j'espère.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
On n'a plus de télé.
Ça te fait chier, hein?
Ah bah un peu, oui.
Ah ouais?
Ah bah attends.
Je peux remplacer ta télé, si tu veux.
Bah ouais, mais ça fait pas de même chauffer, quand même.
Ah ok.
T'es belle, c'est bon, mais c'est
mais
pas
je
la télé.
Pas une télé.
Voilà. Ouais.
Voilà, c'est la première image du Vu 2020. Les délices de l'amour et dans le pré, t'es belle mais t'es pas une télé. Puis après c'est parti pour 4 heures d'images vues en 2020 à la télévision française. Demain 23h20 sur France 3, laissez-vous embarquer pour revoir cette année 2020 telle qu'elle a été représentée sur écran. Rétrospectivement c'est très intéressant. Ça l'est aussi évidemment grâce au montage qui donne du sens. Bonjour Patrick Menet.
Bonjour Pascal Clark.
C'est vous le Manitou du Vu, réalisateur et producteur délégué du Vu de France 3, comme hier du zapping de Canal. Merci d'être en direct dans Culture Média. Alors je commence par la question impossible. Êtes-vous capable de qualifier ce film de 4 heures 2020 résumé en 4 heures? Que diriez-vous?
Que dire? Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si. Bon, je pense en tout cas qu'on peut certainement dire que cette année nous révèle toutes nos fragilités en fait. Enfin, moi, quand j'ai travaillé sur l'année 2020, j'ai été assez frappé de toutes les thématiques qui ressortaient face à nous à travers l'actualité. Et ça a été assez éprouvant à monter, hein, je vous le cache pas.
J'imagine,
mais
ouais.
Ce qui était étonnant, c'était de voir à quel point tous les dénis qu'on peut avoir vis-à-vis du social, de l'environnement, des violences policières étaient réapparus d'une violence incroyable. Enfin, c'est ça qui m'a le plus frappé, moi, à travers l'image, en tout cas, de ce qui a été donné à voir et à entendre à la télévision.
Alors, il y a forcément ce Covid 2019 qui prend énormément de place, on va en parler. Mais d'abord, on peut peut-être remarquer ensemble que la pandémie a eu notamment pour effet, en tout cas moi ça m'a fait ça, de faire oublier un tas de choses ou un tas de gens. Bon, bah, l'âge pivot de la retraite, ça paraît loin. Nicole Belloubet, qui s'en souvient. Sibeth Ndiaye, alors là, ça vous avait fait ça aussi en procédant au montage de ces 4 heures?
Mais moi, ça m'a fait ça, mais ça me fait ça chaque année, je dirais presque. Là, on est encore, l'année 2020 est encore plus frappante, mais ce que vous venez de dire, c'est l'expression de la vitesse qui nous emporte tous, en fait. Donc, une image en chasse une autre, et cette année 2020 a encore un peu plus accéléré les choses. Moi, je suis pas étonné. Je dirais que la pandémie est révélatrice de tous nos travers, de toutes nos problématiques qui sont posées aujourd'hui du vivre ensemble. Mais la Covid n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Ah, vous dites la Covid, moi je vous préviens, je dis le Covid.
Ouais, le Covid.
Ah, mais c'est comme vous voulez, hein. En tout cas. Le Covid de là où on en est, c'est-à-dire dernier jour de l'année 2020, eh bien, revoir les premières traces du virus à la télé, écouter un extrait de Vu, et je m'excuse d'entrer, Patrick Menet, parce que j'ai fait un petit montage sur votre montage. Hein, voilà, Vu 2020, le Covid.
Bravo.
Voici les dernières informations de la Commission nationale de la santé. 41 personnes sont atteintes d'une pneumonie, 7 ont été hospitalisées dans un état grave et une est décédée.
Faut-il craindre une épidémie liée au virus découvert il y a quelques semaines en Chine? Il est transmissible à l'homme et s'apparente à une pneumonie. Des précautions vont être prises dans les aéroports et les hôpitaux.
Les premiers malades sont des vendeurs de poissons et de fruits de mer. Le marché, en décontamination, a été fermé par les autorités.
Sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos comme celle-ci d'habitants paniqués se rendant dans des hôpitaux totalement débordés.
La mesure radicale des autorités chinoises face au virus qui menace de se répandre. Plusieurs villes où vivent 20 millions d'habitants ont été placées en quarantaine. Les festivités du Nouvel An chinois à Pékin ont été annulées.
Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
Voilà, bon, évidemment, Patrick Meuner a écouté l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, un an après. Bon, ça paraît facile à dire, hein, mais enfin, c'est quand même consternant. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette matière d'images sur le virus que vous avez malaxé ?
Moi, ce qui me frappe, il y a tellement de choses à dire. Ce qui me frappe, c'est que dès le départ, j'ai le sentiment, en fait, en tout cas pour la gestion politique et sanitaire en France, en tout cas, il y a une gestion catastrophique, parce que dès le départ, il y a plein d'archives dans le montage que j'ai fait sur cette année, où on voit de nombreux politiques nous dire qu'en fait le masque c'est pas nécessaire, c'est pas utile, il y en a pas besoin. Et en fait dès le départ, le péché originel, je pense, de la gestion de cette crise, c'était de nous dire qu'il y avait pas un problème avec les masques alors qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils n'avaient pas de masque. Donc dès le départ, en fait, il y a une défiance vis-à-vis de la population. Et cette défiance, d'ailleurs, se reporte aujourd'hui même sur l'appréciation du vaccin pour ceux qui veulent se faire ou pas vacciner. Je pense que dès le départ, la problématique, c'est ça en France. On n'a pas fait confiance à la population. On aurait très bien pu leur dire on a merdé avec les masques et puis voilà, maintenant il faut gérer ça comme ça. Mais on fait pas confiance en fait à la population. C'est ça notre problématique. Et dès le départ, je pense que la défiance s'est installée à partir de ce moment, en fait.
Et un an après, vous diriez qu'on est toujours sur la lancée de cette défiance, notamment là où nous en sommes.
Oui, je pense qu'il n'y a pas... Oui, bien sûr. Puis ça a révélé aussi une gestion verticale du pouvoir. Enfin, cette crise sanitaire a été révélatrice d'un bon nombre de choses, quand même. Chacun a pu s'en apercevoir. C'était assez moi c'est ce qui m'a frappé quand on revoit les 4 heures et toutes les archives et toute la communication qui a été faite en tout cas sur cette crise sanitaire, c'est assez frappant, ouais.
Et malheureusement, cette pandémie aura provoqué de belles images, c'est-à-dire ces villes ou ces endroits du monde totalement désertés, juste pour l'esthétique à l'œil. C'était très très beau. Restez en ligne, s'il vous plaît. On va revenir sur votre façon de faire ce vu, Patrick Meuner. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Vue 2020, demain soir, 23h20 sur France 3 et ensuite en ligne. Et évidemment que l'intérêt de la narration tient dans le montage que vous en faites, Patrick Meuner. Alors, petite observation d'abord, il y a des éléments qui vous sont utiles pour les contrepoints, on le sent bien. D'abord, les chansons de la chaîne Mélodie, ça vous adorez.
Oui, c'était une mine.
Les vieux tubes, ça sert bien.
Mais pas... Oui, ça sert bien.
Alors, non, il y en a d'autres. Il y a les documentaires animaliers aussi, hein, pour votre montage. Il y a la télé-réalité en général. Et puis, il y a beaucoup Cyril Hanouna. Il vous sert à ça, on dirait, Cyril Hanouna, non ?
Beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça, Cyril Hanouna.
Il y en a.
Non, ouais, il y en a, mais bon, parce qu'il le mérite.
Et pourquoi il le mérite ?
C'est une blague.
Ah, c'est une blague, d'accord. Et puis bien sûr, tous les débats vous servent aussi. Alors justement, on ne sait pas très bien à quoi ils vous servent, on va en parler dans un instant, mais d'abord vous faire écouter ce montage, les débats de CNews notamment. Exemple d'un montage signifiant, écoutez.
Après 14 ans de bataille judiciaire, Paul François est reconnu comme victime du lasso. Cet herbicide, commercialisé par Bayer Monsanto, a bien intoxiqué l'agriculteur. La Cour de cassation a tranché, elle a rejeté tous les recours du groupe phytopharmaceutique.
Mais si vous mettez pas de pesticides, vos pommes, elles sont dégueulasses.
Et donc voilà le neurone qui semble se rétracter sur lui-même. C'est assez impressionnant.
C'est magnifique.
Ouais, c'est une très belle image.
Voilà, un montage efficace. C'est comme ça que vous vous exprimez en réalité.
Oui, je crois que je parle peut-être mieux avec les images qu'avec mon propre langage, non. Mais c'est vrai que quand on entend et quand on voit ces 3 extraits, on peut quand même s'inquiéter de certaines paroles prononcées sur certaines chaînes. Et il ne s'agit pas que de climato-révisionnisme ou Enfin, cette réflexion est tellement absurde. Mais le champ est large hein, en ce moment.
Ouais, vous avez senti cette année quand même une progression de, voilà, de ces sortes de débats.
Mais moi, je pense qu'on est, on est en train de vivre la foxisation d'une partie de certains médias en France, oui.
Alors, expliquez foxisation pour ceux qui ne savent pas, la Fox, la chaîne américaine.
Ouais, c'est Fox News, c'est une chaîne américaine d'information qui a fait grandir Trump aux États-Unis, qui a apporté en tout cas ses idées, s'il en a. Aux États-Unis. Donc oui, je le sens et on entend des choses aujourd'hui qui nous, enfin encore il y a quelques années nous auraient terrifiés quoi. C'est et aujourd'hui c'est ça rentre. Il y a une espèce de viralité de mots d'une violence aujourd'hui qui sont le spectacle. Et je sais pas si on est à la fin de tout ça, mais en tout cas, cette année a marqué vraiment, au-delà du Covid, c'est frappant. Enfin, j'engage chacun à aller regarder le montage, et je pense que c'est assez inquiétant en fait.
Mais en même temps,
pour vous à Europe 1 d'ailleurs, parce que enfin, vous savez très bien que le patron de ces news a des visées sur votre propre radio, donc.
Ah, c'est vrai, ouais. Vous voilà. Êtes au courant, vous?
Ouais, ouais. Non
on va parler ouais. de tout ça. Je vais y revenir, je vous promets, j'élude pas, mais simplement, passer ces extraits de propos débordants, spectaculaires, démagos, est-ce que c'est pas aussi leur donner de l'écho quand vous les rediffusez dans le Vu quotidien ou dans le Vu 2020? Ça leur donne de l'importance?
Non, mais si vous saviez à quel point je fais le tri, en fait, hein. Parce que pour 10 mots, j'en prends un. Je pourrais en mettre plusieurs dans la journée, enfin chaque jour dans le montage. Donc j'essaie simplement, voilà, de me faire l'écho. Moi, je suis comme c'est dit au départ. Moi, je suis un reflet de ce qui se dit sur les écrans. Donc j'essaie pas de. Je pense vraiment ne pas surjouer du tout toutes ces paroles. Et je pense qu'il y a un vrai souci avec tout ça hein, aujourd'hui.
Alors Patrick Meneuve, vous évoquiez la foxisation de la télévision française. C'est ça que vous avez vu en faisant le montage de toutes les images de 2020.
Entre autres, ouais.
Entre autres. Qui est la Fox News? Quelle chaîne? Et quel est l'objet politique? Allons-y, ne tournons pas autour du pot. Disons les choses.
Je ne connais pas les intentions de chacun. Moi, je regarde et je suis vraiment surpris par certains débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des débats sur oui ou non pour la peine de mort avec une ancienne membre du CSA. On est climato-révisionniste. Moi, je dis plus climato-sceptique, hein, je dis climato-révisionniste, comme le Guardian, qui a changé un peu aussi ses mots. Je pense que moi, je regarde ça et je suis atterré, quoi. Ça fait maintenant plus de 30 ans que j'observe le champ de l'image. Et aujourd'hui, il y a de quoi vraiment s'inquiéter, quoi.
Alors, quand vous voyez que l'humoriste Sébastien Thoen est viré pour un sketch pastichant Pascal Praud, que le journaliste sportif Stéphane Guy est viré pour un message amical à Thoen, ça vous fait quoi? Vous avez plus de 25 ans de zapping sur Canal+.
27.
27, précisément. Regardez votre ancienne chaîne, assister à ça vous fait quoi?
Moi, ça me rend triste. Ce qui est le plus triste, c'est de voir ce que vous venez de décrire et de voir le silence assourdissant autour de cette affaire. Et si vous déplacez simplement les réflexes et ce qui s'est passé sur ces deux anecdotes et que vous les calquez sur un champ politique ou une collectivité, un espace politique, il y a de quoi avoir peur, non?
C'est le silence et l'absence de réaction qui vous inquiète, mais est-ce qu'elle vous étonne?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis tout ça est tellement absurde. C'est complètement, c'est absurde. J'ai pas. Vous avez le même sentiment que moi, j'ai l'impression, non? Tout ça est assez triste.
Je vous l'accorde. Voilà, même si on s'en fout ce que je pense, mais puisque vous me posez la question, oui, j'ai le même sentiment que vous. Dernière chose, vous êtes personnellement toujours en procès contre Vincent Bolloré, on n'a pas prononcé son nom, donc autant le faire. Patrick Menet, vous contestez ce licenciement pour faute lourde. On ne parle pas précisément parce que c'est en cours, évidemment, mais juste votre état d'esprit combatif.
Bah écoutez, moi, ça fait 4 ans et demi que je me défends. Je suis bombardé juridiquement par Monsieur Bolloré et le groupe Canal+. Heureusement, j'ai un très bon avocat, Maître Assous, qui m'aide à me défendre. Mais ce qui est, au-delà de ma petite personne, ce qui est assez inquiétant dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, le droit est fait pour certains puissants. Donc moi, je me défends parce que j'ai les moyens de me défendre. Mais Monsieur Bolloré a pour lui quelque chose de très rare, c'est le temps. Donc il peut jouer le temps avec la justice, et c'est ce qui est en train de m'arriver. J'avais pas eu la bienveillance du service public, aujourd'hui je serais pas là à vous parler.
Merci beaucoup Patrick Menet, je suis contente que vous soyez là pour nous parler. Votre vue 2020, demain 23h30 sur France 3. Bonne journée à vous.
Il sera en ligne aussi, dès le 1er à 6h du matin sur France.tv.
Ah bah voilà, d'accord, vous pouvez prendre
et
de l'avance.
Nous, on est tous les soirs à 20h sur France 3.
Évidemment.
Ma petite promo, et puis sur tous les réseaux sociaux à partir de 17h.
D'accord.
YouTube,
ok, Twitter. Et où que vous soyez, bah bonne journée à vous Patrick Menet.
Je vous souhaite une bonne journée, Pascal.
Merci, à bientôt. À suivre dans la prochaine heure de Culture Média. Il faut tenter d'en rire. Thomas VDB avec nous en direct et en studio. L'humoriste a eu le temps de roder son nouveau spectacle entre deux confinements, mais pas davantage. Dans quel état est-il? Son portrait, en tout cas, par Damien Caprespine. Deux indispensables. Nicolas Carreau revient sur son coup de cœur littéraire de 2020, vous verrez. Et Fred Goetti se souvient du Nouvel An 69 quand Jimi Hendrix faisait des siennes sur scène. Tout ça après 10h sur Europe 1. Alors vraiment, ne quittez pas, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.